Amis auditrices, amis auditeurs, bonjour. Bienvenue sur les ondes de Radio Salve Regina. Paul et Rosemary avec vous pour un nouveau rendez-vous de Peuple du Monde. Le thème d'aujourd'hui sera « Les chrétiens de Syrie après une décennie de guerre ».
Dans ce pays en guerre depuis 12 ans, le terrible séisme du 6 février a frappé une population déjà à bout de force. Brisée par une impitoyable guerre civile et étrangère, les chrétiens ont été particulièrement touchés dans leur chair. Plus de la moitié a été contrainte de s'exiler, l'autre moitié est exténuée par l'accumulation des souffrances qui s'abattent sur tout le peuple sans distinction. Depuis 2019, les différents fronts se sont relativement stabilisés. Le pays est à présent coupé en 4, voire 5 zones d'importance inégale. La Syrie, dite utile, contrôlée par le gouvernement, mais qui doit composer avec ses alliés russes et iraniens, ainsi que les milices paramilitaires pro-régime. Le nord-est, contrôlé par les forces démocratiques syriennes, noyauté par la branche syrienne du Parti travailleur du Kurdistan, la poche d'Idlib, dans laquelle se sont retranchés des groupes armés d'obédientes salafistes, parrainés par la Turquie et les pétromonarchies du Golfe, la zone de sécurité annexée par la Turquie qui vise à neutraliser les mouvements kurdes, d'une part, et à réimplanter les réfugiés syriens au détriment des populations locales et en grande partie chrétiennes, de l'autre. Un tableau qui ne saurait être complet sans mentionner le maintien de la zone d'occupation israélienne sur les hauteurs du plateau du Golan, riche en eau, et qui se situe dans le sud-ouest. Catastrophe humanitaire, punition collective injustifiable qui frappe déjà des millions de Syriens. Tels sont les termes utilisés par les patriarches et le secrétaire général du Conseil des Églises du Proche-Orient en janvier 2021 dans une lettre adressée au nouveau président élu Joe Biden pour qualifier les sanctions économiques votées par l'administration Trump après des atrocités commises dans les prisons syriennes, sanctions qui frappent les Syriens les plus vulnérables au cœur de leur vie quotidienne, au point que les ordures sont devenues une source de nourriture pour les pauvres.
Si les armes se sont peu à peu tues dans la majorité du territoire, on continue de souffrir et de mourir à petit feu, tant la situation humanitaire est alarmante. Alena Douan, rapporteuse spéciale sur les droits de l'homme à l'ONU, indiquait dans un rapport que les sanctions rendent encore plus insoutenable la grave situation en Syrie. Et pour cause. Elle bloque les aides, le commerce et les investissements nécessaires à faire fonctionner le système sanitaire syrien et l'économie. Naguère, grenier à blé de la région, la Syrie est menacée par la faim et les épidémies. Le choléra a refait surface, comme au Yémen, notamment dans le nord-est, où la Turquie assèche les populations de la vallée du Kabour. À cela s'ajoute l'impact peu abordé de l'effondrement de l'économie libanaise et de son système bancaire sur les Syriens qui avaient transféré leurs avoirs dans les banques libanaises. Impact qui a accompagné la forte dépréciation de la livre syrienne par rapport au dollar. Car les produits de première nécessité doivent être payés en devises étrangères. Une situation suffisamment critique pour que l'archevêque maronite de Damas qualifie le conflit syrien de « drame le plus cruel qu'a vu le monde depuis la Seconde Guerre mondiale ». En l'espace d'une décennie, plus de 306 000 civils ont perdu la vie, selon l'ONU. 13 millions de personnes ont quitté leur logement, soit 60% de la population de 2011. 200 000 disparus, dont 2 évêques et 4 prêtres, 95 000 amputés et grands traumatisés. 2,5 millions de logements démolis. Selon Caritas Internationalis, 90% de la population syrienne est devenue pauvre. Il faut non seulement reconstruire les maisons, mais aussi les habitants. D'où la nécessité de redoubler d'efforts pour pallier le plus urgent, sauver une génération perdue qui n'a connu que la guerre. Cela passe par un soutien de la reprise des activités en faveur de l'enfance syrienne. Les années du conflit ont désarticulé le système éducatif, exposant au danger de total abandon scolaire au moins 2,4 millions de jeunes. Retenir les chrétiens dans leur patrie, car une Syrie sans ces chrétiens ne sera plus la Syrie. Tel est le message du gouvernement syrien et de Bachar al-Assad, adressé à chaque rencontre avec des ecclésiastiques qui franchissent le seuil du palais présidentiel. Joignant la parole aux actes, l'État s'est engagé dans le financement de la restauration d'un grand nombre d'églises démolies. La cathédrale maronite et la cathédrale des 40 martyrs d'Alep, siège de la primature arménienne apostolique, la restitution de l'ancien collège de Terre Sainte d'Alep aux franciscains, l'inauguration en novembre 2021 de la première faculté privée de théologie chrétienne à Damas par le patriarche grec Melkite, ou encore la résurrection en octobre du monastère syriaque catholique de Mar Elian, dévasté par les djihadistes, à laquelle l'œuvre d'Orient contribue.
Mi-mars 2022 se tenait à Damas une conférence réunissant les églises de Syrie et des organisations caritatives catholiques avec pour objectif de faire en sorte que les aides matérielles soient acheminées à bonne destination. Un besoin d'optimisation alimenté par l'urgence socio-économique à laquelle font face les communautés chrétiennes qui sont obligées de se procurer les biens de première nécessité via des cartes de rationnement, pain, huile, café, essence, gaz, alors que le marché noir prospère. Dans le nord-est syrien, territoire contrôlé par un patchwork de forces locales et étrangères ou de cellules dormantes djihadistes, persistent. Les forces kurdes agissent sans le moindre contre-pouvoir, tandis que l'armée états-unienne, encore présente sur le terrain, qui les arme et les forme, entretient de bonnes relations avec leurs ennemis jurés, les Turcs. Et que dire des forces russes, dont le groupe Wagner, et des troupes iraniennes et de leurs milices qui contrôlent des pans entiers de territoire. Interrogé, l'évêque arménien catholique du diocèse de la Djezire, Mgr Antranik Aivazian, n'a pas de mots assez durs envers la présence américaine et les agissements des milices kurdes qu'il accuse de piller le pétrole syrien et de contribuer à kurdifier la région en poussant les chrétiens au départ à Kamikli, dans le nord-est, où il dirige deux écoles, il gère 13 dispensaires. Il se plaint des agissements des forces kurdes qui pratiquent une politique de la terreur sur les chrétiens, notamment en procédant à un recrutement forcé dans leurs milices, et d'accuser les Américains de brûler des champs de blé, dont ceux de l'évêché. Autre exemple de la pression kurde, leur volonté d'imposer dans les écoles chrétiennes des manuels scolaires révisionnistes, car ils réfutent le génocide arménien. Il existe encore près de 700 familles arméniennes dans cette ville frontalière de la Turquie. Ils sont à peu près la moitié à Azaké et plus que deux familles arméniennes à Deir ez-Zor. Grâce à l'aide du gouvernement syrien et des bailleurs de fonds internationaux, dont le soutien indéfectible de l'œuvre d'Orient, il parvient à faire tourner deux écoles dans le nord-est à Kamikli et à Azaké. 800 élèves, des élèves chrétiens dont les familles ne payent ni la scolarité ni le transport. Mais son action ne se cantonne pas à la seule Mésopotamie syrienne. Cet évêque a réalisé des miracles en inaugurant une boulangerie, une fabrique de savon, ainsi qu'une clinique mobile équipée par du matériel japonais qui dispense des soins gratuits à Kessab sur la côte méditerranéenne.
Pour se chauffer, de plus en plus de foyers se procurent du mazout au marché noir, tandis que les rares villageois assyro-chaldéens de la vallée du Kabour meurent de soif du fait des digues construites par les Turcs pour retenir l'eau. Résultat, le choléra fait des ravages, tandis que les produits turcs inondent le marché local. alors que la répression contre les chrétiens se poursuit dans les zones sous contrôle kurde, quelques signes positifs ont été enregistrés dans la province d'Idlib, tenue par le groupe djihadiste de Tahir al-Cham. Pour la première fois depuis 10 ans, les chrétiens restés sur place ont pu célébrer la liturgie en toute liberté dans l'église arménienne apostolique du village de Yacoumbié, au nord-ouest d'Idlib, le 28 août, jour de la fête de Sainte-Anne, la mère de la Vierge Marie. Dans le cadre de leur campagne de communication visant à arborer un visage plus modéré, les groupes rebelles ont diffusé les images de la cérémonie. De son côté, Mohammad al-Javlani, le leader de la milice Hayat Tahir al-Sham, l'ex-franchise syrienne d'Al-Qaïda, a fait savoir qu'il autorisera la liberté du culte pour les chrétiens ainsi que son intention de retourner les biens confisqués à leurs légitimes propriétaires. Une action qui, si elle ne fait pas l'unanimité parmi les autres groupes salafistes djihadistes, a le mérite d'apporter une once d'espérance dans les ténèbres de la nuit syrienne. Ce 29 septembre, c'était jour de rentrée pour des milliers d'élèves des écoles chrétiennes de Syrie. Les directeurs des établissements arméniens d'Alep affichaient avec fierté les taux de réussite au bac et la proportion de lycéens inscrits dans les universités, le taux étant passé de 60 à 80%. Il reste pourtant tant à faire pour leur donner un avenir dans leur pays et préparer la relève.
Des chrétiens en Syrie œuvrent quotidiennement aux côtés des Syriens, quelle que soit leur confession. Perchée dans la montagne, la citadelle domine l'aride vallée. À perte de vue, au levant, le désert. Un nid d'aigle, une forteresse. Derrière ces murs épais se tiennent des combattants armés seulement de leurs convictions, de leurs prières, de leur choix, de l'amitié à tout prix. Des combattants de la paix. À la fin du jour, en ce mois de janvier, après l'heure de méditation silencieuse, le père Jacques Mourad célèbre la messe en rite syriaque pour une poignée d'entre eux, assis à même le sol couvert de tapis. Ouda, une moniale, Yossé et Ziyad, des moines, Youssef, un familier. Quelques hôtes cherchant ici la vie. Le monastère de Dermar Moussa el-Abashi, Saint-Moïse l'Abyssin, abandonné depuis le XIXe siècle, s'est animé dans les années 1980 lorsque le jésuite italien Paolo Dall'Oglio a entraîné des centaines de jeunes à le restaurer. Plus que les murs, ce sont les relations des hommes devant Dieu qu'il se sentait appelé à rebâtir. La communauté qu'il a fondée assume les valeurs monastiques de simplicité, de prière, d'hospitalité. Le jésuite passionné y a ajouté une mission. Aller vers les musulmans dans un esprit d'amitié et d'échange spirituel, comme le firent en leur temps Charles de Foucault et son ami Louis Massignon. Mais le père Paolo, parti à la rencontre de représentants de Daesh le 29 juillet 2013 dans l'espoir de faire libérer des otages kurdes, a disparu depuis. Un peuple à genoux, car la tourmente s'est abattue sur la Syrie. L'espérance soulevée par le printemps arabe y a été noyée dans le sang. Les sanctions économiques imposées par les pays occidentaux mettent le peuple à genoux. Les médicaments, comme les produits de première nécessité, manquent cruellement. On raconte qu'un prêtre aurait dissimulé une bonbonne de gaz sous sa soutane en passant la frontière depuis le Liban. Les gens ne peuvent plus venir se ressourcer chez nous, se lamente sœur Ouda. Le taxi depuis Nabek à 17 km, coûte la moitié d'un salaire mensuel. puisque la communauté ne peut plus accueillir les ateliers d'été pendant lesquels chrétiens et musulmans échangeaient, chantaient, mangeaient ensemble, elle va vers eux, multipliant les initiatives dans la ville voisine. Visites aux familles, soutien psychologique, jardin d'enfants, la plupart sont musulmans, comme à l'école de musique créée aussi par les religieux.
À la différence du monastère de Mar Moussa, celui de Mar Eliane, Saint-Julien, à une demi-heure de route, a été la cible des djihadistes. En 2000, le père Jacques Mourad, le premier à avoir rejoint le père Paolo dans les années 1990, accepte l'invitation de l'évêque syriaque catholique d'Homs à relever ce sanctuaire en ruine. Il devient aussi le curé de la paroisse catholique du village de l'Oasis, Al-Karya Ten. Il construit, plante des milliers d'oliviers, un père pour la petite communauté catholique. Mais le 21 mai 2015, le prêtre est enlevé par des djihadistes de l'État islamique. Le sanctuaire est démoli au bulldozer, l'église incendiée et le tombeau de Saint-Julien profané. Après 5 mois de détention, le moine échappe à la vigilance de ses geôliers et reprend son combat pacifique depuis Mar Moussa. Fidèlement soutenu par l'association française L'Œuvre d'Orient, il reconstruit Mar Eliane le 9 septembre 2022 pour la fête du Saint. Il y invitait chrétiens et musulmans, qui étaient majoritaires dans l'assemblée. L'évêque orthodoxe de Homs a prononcé l'homélie et un musulman a pris la parole en fin de célébration. En visite de chantier à Mar Eliane ce jour de janvier 2023, le père Jacques Mourad passe à la crypte. La main posée sur le sarcophage du saint, il prie longuement. Élu depuis peu archevêque syriaque catholique de la grande ville de Homs, à une centaine de kilomètres au nord de Mar Moussa, il doit désormais s'arracher au désert.
Homs comptait près d'1 million d'habitants avant la guerre, dont 160 000 chrétiens. Mais aujourd'hui, nul ne sait. Dans la vieille ville, le quartier chrétien, investi par les islamistes, porte les stigmates des combats. À quelques minutes à pied des cathédrales syriaques orthodoxes et catholiques, le couvent jésuite garde la mémoire d'un autre grand acteur de l'amitié entre chrétiens et musulmans. Dès le début du siège de la ville, en 2011, le père Frans van der Lucht choisit de rester au milieu de ceux qui ne peuvent fuir. Il ouvre la porte du couvent à 80 chrétiens, à de nombreuses familles musulmanes, va parler aux différents groupes rebelles, aussi bien qu'à l'armée syrienne, met à l'abri les archives et la vénérable relique de la ceinture de la Vierge de la cathédrale syriaque orthodoxe. Il est assassiné le 7 avril 2014, 3 jours avant son 76e anniversaire. Les combats cessent moins d'un mois plus tard. Comme si France avait annoncé au Seigneur « J'ai tout essayé sur terre, maintenant je viens moi-même plaider la cause de Homs », sourit le père Ghassen, jésuite syrien.
Al-Moukal, le Saint-Sauveur animé par le jésuite, des ados jouent au basket, fiers de passer des paniers à 3 points. Une porte ouverte laisse voir des jeunes femmes voilées participant à un cours de cuisine. Dans une grande salle, un groupe de chrétiennes achève leur réunion hebdomadaire. L'Allemagne me refuse un visa pour rendre visite à ma fille malade. Ils ont peur que je ne rentre pas en Syrie, soupire Anan. Les jeunes désirent tous quitter leur pays, explique le père Ghassen. De la catéchèse au lien social, les jésuites animent des actions tous azimuts dans plusieurs centres. Au printemps dernier, le père Géry, autrichien, réussissait une gageure. Organiser une rencontre de Thésée sans frère de Thésée pour répondre à l'énorme soif des jeunes de vivre en paix, cohérent avec leur foi. 800 étudiants y ont participé, venus de toute la Syrie. À 2 pas de la résidence des jésuites de Homs, Samia, sœur des 5 cœurs de Jésus et de Marie, conduit plusieurs projets en employant de jeunes diplômés, dont Suzanne, architecte. Un bon moyen de les encourager à rester. Directrice du centre Le Cénevé, qui accueille des enfants handicapés, sœur Samia a créé, avec l'aide de l'Œuvre d'Orient, un bureau de rénovation. Celui-ci a permis à plus de 80 familles dans la précarité de réhabiliter leur logement détruit durant la guerre. « Nous voulons rendre sa beauté à notre ville », s'enthousiasme Suzanne, dont la famille a dû fuir son village détruit. Sur les murs de l'église de Marmoussa, les fresques du XIe au XIIIe siècle laissent apparaître des visages entiers ou martelés par des iconoclastes. Leurs héritiers se nomment Paolo, Jacques, Ouda, Djihad, Yossé, Ziad, Franz, Gassen, Jerry, Samia, Suzanne, pour poursuivre leurs héroïques œuvres de paix. Amis auditrices, auditeurs, merci pour votre écoute. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous de Peuple du Monde.
Alude sarà la terra.